les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide.
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Canus, en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et
bonsoir.
On vous a parlé de chanvre, évidemment, de cannabis, beaucoup de cannabis thérapeutique cette semaine avec la Creuse qui a l'honneur. Et puis on va vous parler d'autres petites choses quand même, parce qu'on va parler quand même de la 7e conférence internationale du cirque. On va parler d'un nouveau livre, Toxique, qui est écrit avec, par plein de médecins et d'addictologues, dont notre famille Kouchner. Bon, on reviendra là-dessus. On viendra sur deux, trois trucs sur le Kalash ou le Tarpé, les problèmes de la prohibition des quartiers sensibles, le fléau, c'est la prohibition, c'est pas ses partisans. Voilà, différents CP du cirque. Et puis après, bon, on parlera de différentes petites choses. La bière au cannabis qui est en plein essor. New York, où la légalisation avance. Le Canada, où le cannabis fait planer l'économie. Voilà un petit peu le sommaire de ce soir, très 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 rapidement, avec beaucoup de cannabis thérapeutique. On va peut-être attaquer tout de suite là-dessus, non? Un tout petit peu.
Mais si, attaquons.
Voilà, avec deux articles.
Entre autres, oui, il y en a eu d'autres, mais bon, c'est ceux qu'on a choisis, un article du Parisien, un article de La Croix. Celui de La Croix est mieux que celui du Parisien, je trouve.
Voilà, et puis il y en a un autre de Courrier d'International que tu nous as mis à la fin.
Alors là, oui, parce que c'est... J'ai mis à la fin parce que c'est un vu des États-Unis. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Mais effectivement, il y a cet article de Courrier International au sujet de la Creuse. Voilà, qu'on fera peut-être dans un ordre différent de celui que j'ai mis dans la version papier. Mais en tout cas, voilà, commençons d'abord par donc, ces deux articles qui reviennent sur les déclarations de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à propos d'une possible arrivée, je ne sais pas comment on peut dire, du cannabis thérapeutique voilà, qui pourrait arriver en France. Donc ça reste quand même toujours au conditionnel.
Bah, il faut rappeler le contexte. Hein, c'était
là, ça commence à se resserrer, effectivement.
Ouais. Le président qui avait dit aux gens de la Creuse qu'il fallait trouver quelque chose à faire pour développer ce département un petit peu perdu, un petit peu vide de sa population, parce qu'il y a quand même plus de chèvres, de vaches que d'habitants dans ce pauvre...
C'est vrai que la Creuse, effectivement, est un département qui est sur ce qu'on appelle la diagonale des faibles densités, ou diagonale du vide, plus péjorativement appelé. Ça a fait l'objet d'un livre très intéressant, d'ailleurs, et qui est cette diagonale part on va dire des Ardennes jusqu'aux Landes, et qu'on amène la diagonale des faibles densités. Et effectivement, la Creuse se trouve... mais il n'y a pas que la Creuse. D'autres départements pourraient faire l'objet d'expérimentations. La Corrèze, le Puy-de-Dôme, la Lozère, le Lot.
Voilà, mais il y a... Et puis d'autres...
Montagne, l'Allier, autre. Par exemple, même l'Allier. Hein.
Voilà. Mais n'empêche, c'est la Creuse, parce que...
la Nièvre.
Je sais pas, c'est le seul endroit où je connais les gens qui parlent de Guéret, ils me disent Guéret dans la Creuse.
Oui, Guéret dans la Creuse, oui.
Voilà,
oui.
Parce que déjà, Guéret, ça a beau être un chef-lieu,
c'est minus,
inconnu,
hein.
Quoi.
C'est pas très connu.
Et rien que la Creuse, déjà, t'as du mal à la saisir où elle est, quoi. Donc, il faut vraiment tout préciser.
Ouais, après, il y a... plus intéressant que Guéret dans la Creuse, hein, voilà. En termes de ville, mais bon, on va pas refaire.
Bref, donc, à la suite de ça, donc, le président avait demandé à des députés de la Creuse et de ces régions un petit peu perdues
et faiblement densifiées,
de trouver des idées, quelles qu'elles soient, pour essayer de donner un essor à cette population. Et donc, il y a un député ou deux... qui ont eu l'idée de... Donc c'était avril, Olivier Véran qui a fait ça en avril, qui a proposé donc...
Un monsieur qui a l'air très bien, vas-y je te laisse finir.
Qui a proposé justement qu'on se mette à faire quelque chose dans la Creuse pour...
redynamiser pour le département.
Voilà, tout à fait. Et donc, il l'a dit une fois, il l'a dit plusieurs fois, on en a déjà parlé deux, trois fois dans cette émission. Et donc là, c'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a dit que peut-être un retard que la France a pris quant à la recherche et développement du cannabis médical est peut-être dû au fait que c'est interdit. Il y a plein de pays qui l'ont fait, donc peut-être qu'on pourrait le faire en France. Et donc, elle a demandé aux différentes institutions qui évaluent les médicaments de lui faire remonter l'état des connaissances sur le sujet, parce qu'il n'y a aucune raison d'exclure, sous prétexte que c'est du cannabis, une molécule qui peut être intéressante pour le traitement de certaines douleurs très invalidantes. Donc, elle a dit « j'ouvre le débat ». En tout cas, du cannabis thérapeutique.
Oui, en même temps, elle a dit ça jeudi matin sur France Inter en direct. C'est tout ce qu'elle a dit.
Ouais, voilà, mais ça n'empêche pas qu'il y a plein de gens qui l'ont pris pour argent comptant. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, t'as vu, le cannabis a été légalisé. Hein, quoi ?
Oui, mais ça, on l'entend tous les 6 mois, en général.
Donc,
en tout cas, puis on sait à quelle vitesse ils vont, les politiques, hein, sur des sujets comme ceux-là. Hein. Donc c'est encourageant, en même temps il faut pas... Avec la politique c'est toujours pareil, hein. Il faut jamais leur signer un chèque en blanc. Hein.
Voilà, n'empêche que dans la Creuse il y a des agriculteurs qui sans attendre les autorisations ont commencé déjà à planter. On en avait déjà parlé, donc là ça est dit, ça serait bien qu'on nous donne vite une dérogation, le gouvernement devrait se bouger, le département attend, nous faisons sauter les barrières. Voilà, donc est-ce que ça va vraiment avancer? On n'en sait rien, puisque...
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que on peut dire ou redire, en tout cas, où se trouvent les freins. Parce qu'on sait qu'il y a des freins en France. L'Académie de médecine...
Principalement.
Debré. Constantin au niveau de la pharmacie. Mmh. Voilà, ce sont les deux principaux opposants connus, en tout cas, à des réformes dans ce sens. Et beaucoup de politiques à droite, à gauche, au PS, un peu partout. Hein.
En fait, c'est surtout l'industrie pharmaceutique qui bloque. Hein, et qui
aussi paye l'industrie pharmaceutique, oui.
Qui paye justement ses grands bontes pour continuer à dire n'importe quoi.
Oui, c'est vrai. Oui.
Parce que je ne vois pas trop leur intérêt autre. Voilà. Et puis, on devrait faire un test d'essayer d'écrire aux entreprises pharmaceutiques pour leur dire qu'on veut écrire un bouquin contre le cannabis. Je suis sûr qu'on aurait des subsides tout de suite.
Oui, malheureusement. On en a déjà parlé aux États-Unis. Pour les États-Unis, il y avait déjà eu ce problème. Ouais.
Voilà, donc sinon, qu'est-ce que dit l'article du Parisien ? Pour conclure, il rappelle l'état de la France, l'état de la loi en France, que la culture est interdite. Qu'il existe de nombreuses dérogations, donc c'est pas tout à fait ça. Elle est interdite, sauf si on a des herbes à moins de 0,2% de THC. Donc c'est une liste restreinte de variétés de chanvre qui sont autorisées pour l'industrie textile et pour donc pour le bâtiment où ça sert d'isolant, ou alors pour l'huile, puisqu'avec les graines on fait une très très bonne huile
de chanvre.
Comestible.
Particulièrement bien équilibré en oméga 3, en oméga 6. La meilleure.
Voilà. Donc, en tout cas, et sinon, il y a maintenant donc ces nouveaux produits avec le CBD, donc qui n'ont pas de THC dedans. Donc, même si c'est à base de THC. Ou très peu de THC.
Très, très peu.
Et donc, comme la loi ne dit rien là-dessus, dit que ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Donc, on retrouve ces produits à base de CBD dans les e-cigarettes, dans des gélules, dans des confiseries. Produits légaux, mais qu'il est toutefois interdit de présenter comme ayant des vertus thérapeutiques ou bienfaisantes sous peine de sanctions pénales. C'était ce qui était arrivé à un magasin à Marseille, qui est un des premiers à avoir
c'était
mis
pas un
en
magasin,
vente vraiment...
C'était Canavap. C'était
oui.
Le fabricant de... de illiquide et tout en 2014 qui a eu des ennuis.
Voilà,
il a eu des ennuis, pourquoi ? Parce qu'il avait présenté les illiquides au CBD comme pouvant être des produits de santé, c'est là-dessus qu'il a été recadré.
Voilà, tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire.
Excuse-moi.
Non, mais c'est aussi vivant quand on se répond.
Oui.
Oui, voilà. Jacques. Sinon, nous avons un autre article qui dit un peu la même chose.
Ou en mieux.
Voilà, un article de Lacroix dans la Science et Éthique. Donc, qui dit le cannabis thérapeutique pourrait être autorisé en France. Donc là aussi, c'est du 24 mai. Ils reprennent un peu les mêmes phrases
de
l'article d'Agnès Buzyn, de ce qu'elle a dit sur France Inter.
Alors, dans cet article de Lacroix, il parle d'un exemple concret d'une dame, Françoise Maillard, qui est une ancienne médecin d'ailleurs, et qui raconte que elle, depuis 2 ans, elle va acheter son Sativex en Suisse, parce qu'en France, il est introuvable en raison d'un problème entre l'administration et le distributeur, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix de vente. Voilà,
voilà, parce qu'il y a eu donc l'AMM, l'autorisation mise sur le marché, mais il n'est toujours pas distribué.
Pour des raisons administratives, officiellement.
Administratives et économiques.
Voilà.
Voilà, alors la petite histoire, on la connaît, hein, c'est-à-dire que le Sativex, ils mettent un prix assez haut, parce que surtout, c'est qu'il y a beaucoup de restrictions à son usage. Et ils disent, nous, on est prêts à baisser le prix, mais il faut que vous enlevez toutes les restrictions pour qu'on puisse en vendre en grande quantité. Pour que, voilà, pas distribuer un produit qui ne sert à que très peu de personnes. Donc voilà, tout le débat est là-dessus. Alors peut-être que ça va bouger si la ministre décide que le Sativex peut vraiment être utile. Et entre autres, grâce à des gens comme cette Françoise Maillard, qui explique quand même que c'est le seul, pourquoi c'est une ancienne médecin, donc elle a quand même une certaine... elle a la force de la fonction. Et elle explique que c'est la seule chose qui va bien pour elle, c'est le Sativex. Hein. Elle a essayé d'autres médicaments, ça n'allait pas. Elle s'est mise à fumer du cannabis, mais sans succès. Elle a même testé des gâteaux au cannabis, mais ça l'a rendu un peu stone. Donc elle a vraiment tout essayé. Et là, elle dit, avec le Sativex, ça me fait du bien. Donc elle va chaque mois en Suisse acheter tous ses traitements pour un mois. Et ça lui coûte donc 550 € de voyage depuis Paris pour aller évidemment à Genève ou dans une autre région de Suisse.
Donc c'est au moins 150 à 200 euros de plus que si elle pouvait se le procurer en France. Parce que pour l'instant, ce qu'on a entendu au niveau des prix, c'était autour de 300, 400 euros ou 250. Enfin, bon, bref, très cher déjà, mais bon, en tout cas, y aller là-bas en Suisse, c'est encore plus cher.
Voilà, donc elle explique que dans le Sativex, il n'y a quasiment que du cannabidiol, très très peu de THC, ça rend pas du tout stone, c'est pas du tout comme fumer un joint. Il faut être clair, le cannabis, autoriser le cannabis thérapeutique ne constituerait pas un pas vers la légalisation du cannabis. En tout cas, le débat prend une tournure éthique, parce que... C'est le caractère illicite de cette consommation expose les malades souhaitant s'en procurer à divers risques, y compris juridiques, pour un usage permettant pourtant d'améliorer leur qualité de vie. Elle s'interroge sur le caractère inéthique de l'interdiction du cannabis thérapeutique, notamment au regard du principe de non-malfaisance, comparant cette interdiction à un refus de soins de la part des autorités. Donc elle va très très loin, ce qui est intéressant, et voilà... Et il y a d'autres médecins qui expliquent qu'ils ont vu quand même beaucoup de gens l'utiliser pour certaines douleurs, pour atténuer des nausées, des vomissements liés à la chimiothérapie. Bref.
Alors, il faut savoir qu'à ce jour, il y a 41 pathologies listées qui peuvent être traitées avec du cannabis thérapeutique. 41. Il y a encore quelques années, on n'en était même pas une dizaine. Hein. Là, on en est à 41. Et potentiellement, rien que pour la France, ça fait plusieurs dizaines de milliers de malades qui peuvent être concernés par un traitement pour traiter leur pathologie avec du cannabis thérapeutique.
Voilà, et donc on finit encore par l'exemple de la Creuse, hein, où il raconte que suite à la demande du président qui demandait des propositions pour sortir ce département de la crise, ils essayent de faire accepter une filière cannabis dans la Creuse, de cannabis thérapeutique, avec beaucoup d'agriculteurs locaux qui sont partants. Et il rappelle que quand même, au Colorado, la production de cannabis thérapeutique et récréatif a permis la création de 18 000 emplois en 3 ans. Sans compter ceux qui existent avant. Voilà. On sait un petit peu de musique.
Ouais, ouais, ouais. Allez, à tout de suite. Musique.
D'écouter Zéro. Vous êtes toujours à l'écoute de Cannabis Circus sur Radio Canu.
Ouais, ouais, ouais. Toujours avec nous donc dans ce nouveau numéro de Cannabis Circus en ce lundi 28 mai 2018. Et une actualité riche en cannabis, cannabis thérapeutique, des points de vue, des communiqués de presse du cirque, des tribunes dans le monde, blablabla. Plein de choses.
Voilà, donc le petit communiqué de presse.
Alors, on va commencer par ce petit, le premier petit communiqué, celui-ci est petit communiqué de presse du cirque de vendredi dernier du 25 mai, qui nous lance, qui nous annonce la septième conférence internationale consacrée aux avancées pharmacologiques et utilisation thérapeutique des cannabinoïdes. Conférence organisée par l'association UFCM Eye Care à l'université de la Sorbonne, qui se tiendra donc le 1er juin prochain et qui résonnera sans doute autrement après les récentes déclarations de Madame Buzyn, ministre de la Santé, à ce sujet. Interrogée par un patient, la ministre des Solidarités et de la Santé expliquait avoir demandé aux différentes institutions qui évaluent les médicaments de lui faire remonter l'état des connaissances sur le sujet, dont acte. Restera aux autorités à expliquer aux Françaises et aux Français comment on peut qualifier l'usage récréatif d'une plante de fléau, tout en reconnaissant qu'elle peut être un excellent moyen pour soulager ou soigner un très grand nombre de pathologies pour lesquelles les traitements conventionnels sont impuissants. Un embarrassant dilemme. Je suis pas certain qu'ils trouvent. Enfin, moi, je suis même quasiment certain qu'ils vont arriver à trouver une parade pour se débarrasser de cet encombrement. Je pense déjà, par exemple, à la FNPC. J'ai mangé le nom total. La Fédération nationale des producteurs de chanvre. Voilà. Qui depuis longtemps maintenant communique sur le chanvre, cette graine sans THC, qui n'est pas de la drogue. La drogue, c'est le cannabis, ce n'est pas le chanvre. Voilà. Ce qui n'a absolument aucun sens d'un point de vue linguistique et étymologique, mais bon. Pour eux, en tout cas, ça l'est. Et du coup, je pense que ça peut, ils peuvent tout à fait nous faire le coup au niveau de la santé et nous dire « Ouh là là, mais attention, là c'est du cannabis thérapeutique, parce que dedans il y a du CBD et que dans la drogue, il n'y en a pas. » Ce qui est faux aussi, hein. Mais ils peuvent tout à fait nous sortir des énormités comme celle-ci. Ils en ont déjà sorti un paquet depuis longtemps.
Voilà, c'est comme quand on nous dit que le chanvre ne fait pas partie de la culture française.
Oui.
Alors que quand on regarde toutes les cartes de l'agriculture de la France
jusqu'aux
au début
années 30,
du 19e siècle, on voit quasiment le chanvre dans plus de la moitié de la France.
Oui, mais Jacques, c'était pas du chanvre psychotrope, enfin!
Voilà, et puis surtout, dernièrement, quand on voit qu'on a découvert du chanvre dans certaines...
Des récipients qui étaient utilisés pour avoir du vin, et dedans il y avait du cannabis, quoi.
Voilà, donc dans des tombes
des Gaulois, ouais.
Ou gauloises.
Près de Clermont-Ferrand, voilà. Là, suite aux fouilles, là, oui.
Et donc, voilà, pour ceux qui nous disent que c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas en France, voilà... on va quand même pouvoir revenir un petit peu, au moins il y a 2000 ans, on utilisait déjà le chanvre en France, donc voilà. Et on le mettait même dans les tombes pour que...
Il y a 2000 ans, mais déjà il y a 2000 ans, il y avait des sales hippies qui amenaient du cannabis en France, c'est pour ça.
C'était encore des Roms, je suis sûr.
Ouh là là, des migrants, des étrangers.
Ah bah oui.
Ah mais c'était les Romains.
Bah oui,
mais en fait
peut-être plus, des Perses.
Ou ouais, des Perses.
Savoir, ou des...
Ou des Goths.
Non,
ou des 1 des 1.
Bref.
Alors, donc voilà, maintenant cette tribune dans le Monde samedi dernier, donc c'est tout récent.
Pour un nouveau livre qui vient sortir de Toxique, qui s'appelle, qui est écrit par 5 médecins, donc 3 anciens de Médecins sans frontières, entre autres Monsieur Bernard Kouchner, Patrick Heidberg-Hard et Jean-Pierre Douloued, ainsi que 2 addictologues, William Lovenstein et Bernard Lebeau. Donc ils ont écrit un bouquin à 5 mains, une sorte de discours, de conversation. Donc c'est aux éditions Odile Jacob, à 288 pages. Voilà. Et donc, il y a entre autres donc ce fameux Bernard Kouchner, quand même, qui, rappelons-le, a écrit l'appel du 18 juin.
Enfin, était l'un des rédacteurs de l'appel du 18 juin, et voilà, qui a lancé l'appel en 76. Ouais.
Était l'un des rédacteurs, ou des signataires, en tout cas, de l'appel du 18 juin,
ouais.
de Libération en 76, qui a depuis été ministre. Quand il l'était, il a un petit peu
Il a tenté, quand même. Non, il a tenté.
Il a tenté.
Ah oui, il a tenté. Tout le PS lui est tombé dessus. On ne peut pas lui en vouloir à ce niveau-là. Il a fait c'est lui qui a quand même demandé le rapport Rock. C'est lui qui a quand même fait un sacré boulot, même si je ne suis vraiment pas un fan de Kouchner. Hein, mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever ça. Quoi.
D'accord. Donc, il a tenté.
Mais il avait été interviewé à l'époque par l'équipe de Carl Zéro à la fin des années 90. Il avait dit, moi, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu au sein du gouvernement, mais visiblement, il était tout seul. Quoi.
Tout à fait. Et puis, bah, y en a d'autres. Hein. Je me souviens, un ministre qui est resté une semaine, c'était sous Mitterrand. Comment qu'il s'appelait, lui ?
Ah, ben oui.
Un des ministres qui est resté le moins longtemps.
Qui était ministre de la Santé une semaine.
Oui.
Et qui voulait mettre en place la dépénalisation, déjà la substitution. J'ai mangé son nom. Quelqu'un particulièrement valeureux hein, et de courageux, et il avait démissionné de manière assez fracassante, je me rappelle.
Ah, où il a été démissionné au choix.
Non, il avait dit voilà, moi je voulais mettre en place ma réforme et tout au niveau des drogues, et on lui a pas laissé faire, il a filé sa démission à Mitterrand et s'est barré quoi.
Oui, c'était ça.
C'était ça.
Voilà. Donc, ces cinq auteurs reviennent de dessus, parlent des...
Schwarzenberg,
tout à fait. Ce livre toxique qui parle, donc l'ouvrage témoigne des allers-retours entre d'audacieuses pratiques de corsaires lançant des expériences pilotes et des mesures prises lors d'allers-retours entre... prise lors des diverses périodes où Bernard Kouchner fut ministre. Il en est résulté l'installation des programmes de substitution par la méthadone, de la buprénorphine.
La buprénorphine, oui.
Et plus récemment, l'ouverture des premières salles d'injection sous supervision médicale afin de prévenir des surdoses mortelles. Bernard Kouchner, il explique qu'ils sont des thérapeutes sensibles à la peine des personnes souffrant des effets indésirables des drogues. On les a baptisés des dealers en blouse blanche parce que nous ne supportions pas de les laisser s'enfoncer. N'empêche que Bernard Kouchner, avec MSF, a reçu quand même un prix Nobel de la paix. Et qu'il y a quand même un discours quand même très, très intéressant dans ce livre. On va peut-être le lire et on reviendra dessus s'il y a vraiment des choses très intéressantes.
Alors une grande absente dans toutes ces personnalités, Simone Veil, qui n'est absolument pas citée. Et là je trouve que c'est vraiment regrettable, puisque si à un moment elle ne devient pas ministre de la Santé en 93 sous Balladur et qu'elle ne met pas un coup d'accélérateur pour que la politique de réduction des risques s'installe effectivement en France, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui.
Sans parler aussi d'une autre dame, Barzac, qui...
Alors c'était en 87, oui. C'était plus tôt.
Un peu avant, et qui, elle, a quand même autorisé les seringues en vente libre.
Exactement.
Et là-dessus aussi, ça a fait beaucoup pour la politique de réduction du risque, et on l'a beaucoup vilipendée.
Et elle est également oubliée dans ce petit rappel-là, c'est dommage.
Voilà, donc, autre communiqué de presse du cirque.
Voilà, autre communiqué du 22 mai, que je vais vous lire également, qui est un petit peu plus rigolo que le précédent.
Qui s'appelle donc Le Fléau, c'est la prohibition et ses partisans.
Donc, si nos responsables politiques n'ont jamais de mots assez forts pour évoquer le cannabis en employant des termes aussi graves qu'inappropriés tels que « fléau », comment qualifierait-il alors l'alcool ou le tabac responsable à eux seuls de près de 100 000 décès par an en France, sans parler des violences routières, sociales ou familiales générées par le premier, l'alcool. La stratégie de la peur adoptée par tous les gouvernements depuis le vote de la loi du 31 décembre 70 sur les stupéfiants n'est pas seulement une erreur, mais une énorme duperie et sans doute la démonstration de leur incompétence. Depuis plus d'un quart de siècle, le cirque s'emploie à dénoncer ces vils mensonges et toutes ces contre-vérités en fumant les Françaises et les Français sur la question de la politique des drogues. Le constat est pourtant sans appel. La prohibition constitue bien l'un des plus terribles échecs du droit national et international. Il n'est pas une journée sans que des faits viennent nous le rappeler. Le dernier en date, c'est cette fusillade en plein cœur d'une cité marseillaise ce mardi, durant laquelle des policiers ont été mis en joue et intimidés par des individus munis d'armes lourdes, alors que probablement se déroulait une transaction stupéfiante. Et en persistant à abandonner au réseau criminel un juteux marché, l'État et la plupart de nos politiques se rendent toujours plus complices de ceci. À l'insécurité de la population riveraine s'ajoute celle des usagers pris entre l'étau État, crime organisé, le premier s'apprêtant à institutionnaliser leur racket à l'aide d'amendes forfaitaires, et le second en se réjouissant sans doute des bonnes affaires à venir en l'absence de la légalisation du marché. La France est en marche sur la tête, alors que l'heure semble bien à une profonde réforme du statut du cannabis. Tandis que la plupart de nos voisins se préparent économiquement à sa régulation récréative et thérapeutique, notre pays prend du retard en criminalisant toujours plus une population, la jeunesse, qu'il prétend par ailleurs vouloir protéger. Retard qu'il aura beaucoup de mal à combler. Et ce n'est pas le nouveau discours confus, dominant, emmené par une certaine addictocratie, toujours plus influente, qui permettra d'apaiser un contexte où l'hystérie côtoie la démagogie. L'évidence est pourtant là. Malgré une répression acharnée, une propagande éhontée, le cannabis est bien la plus populaire des drogues illicites et probablement la moins nocive dès lors qu'on en maîtrise l'usage, en adoptant par exemple un mode de consommation à moindre risque, tel que la vaporisation. La vérité réside aussi dans le fait que son usage est désormais parfaitement intégré dans nos mœurs et que sa légalisation inéluctable finira bel et bien par s'imposer dans notre pays. L'opinion publique n'y est plus aussi formellement opposée que par le passé, d'autant plus qu'elle est acquise désormais à la prescription thérapeutique du cannabis, annoncée voici 4 ans par le gouvernement précédent, mais cependant inopérante depuis lors, aux grandes dames de milliers de patients et de patientes que la plante pourrait soulager. Alors non, c'est pas celui-là qui est drôle, c'est l'autre communiqué de presse qui est drôle. Parce qu'on en a un troisième.
Voilà. Alors, pour répondre aussi dans le blog de Mediapart, là aussi, on parle de la calache et le tarpé. Donc là, c'est Victor Raioli,
ouais. Oui, parce qu'on peut se pseudoifier maintenant.
Voilà, donc une démonstration de force des trafiquants marseillais à la Busrine. Un véritable commando paramilitaire avec uniforme noir, voiture noire et kalachnikov tire dans la cité et n'hésite pas à flinguer des flics qui arrivent. La routine, quoi, comme au Mexique. Encore une fois, Marseille est montrée comme Chicago au joyeux temps de la prohibition. La ville où l'on défouraille comme longue galège. Comme longue galège.
Galéjade.
La ville où les différends se règlent à la calache. Voilà, pourtant c'est une ville souvent citée pour l'intégration, un paradoxe et une réalité, il n'empêche que ces règlements de compte se multiplient, voire se banalisent. Le moindre différent se règle au calibre et escalade à la Kalachnikov. Les flics font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas grand-chose. Cette ambiance de Far West est sous-tendue par le chômage à haute dose qui sévit dans les quartiers dits sensibles, de cette ville pauvre, avec leurs conséquences, la qualité d'une économie parallèle. En l'occurrence, le trafic de drogue, essentiellement le shit cannabis. Voilà, donc c'est toujours le trafic organisé par des gros bonnets qui n'habitent pas sur place, qui habitent plutôt dans des... Quoi, ils habitent pas dans les quartiers nord, hein, ce qu'ils veulent dire, et qui habitent plutôt dans des luxueuses demeures qui sont au soleil. Voilà, les pourvoyeurs remontent la drogue depuis le Maroc. Voilà, donc de différentes façons, soit en gofa, soit dans des camions. Voilà, les revendeurs, donc il explique tout le système dans les cités où il y a les revendeurs qui sont ce qu'on appelle les dealers, mais il y a aussi les nourrices qui logent les stocks, les choufs qui sont les guetteurs, des minots en général, qui arrivent à faire plus d'argent que leurs parents qui sont au chômage, donc... Voilà, comment donner le goût des études à des jeunes dans ces conditions-là, voilà. En tout cas, comment casser cette spirale de la mort? Certainement pas avec des gesticulations policières. Les bataillons de CRS de Villeneuve, près de Grenoble ou dans les quartiers nord de Marseille ne sont pas utiles, en ce sens qu'ils donnent un coup de pied dans la fourmilière et désorganisent momentanément les réseaux, mais ils ne règlent pas le problème de fond, la misère due au manque de boulot et le trafic. Voilà. Le boulot n'arrivera pas dans les cités à coups de baguette magique. On n'est pas dans Harry Potter. Voilà. J'entendais ce matin Menucci, conseiller municipal et ancien député de Marseille, tirer les conclusions de cet état de fait. Légaliser le cannabis afin de couper l'herbe, qui fait rire, sous les pieds des trafiquants. Il n'est pas le premier, il n'est pas le seul à prendre enfin le chemin du réalisme. Voilà, donc dès qu'on parle de ça, évidemment, c'est une position qui est tout de suite combattue à gauche comme à droite. Personne, aucun politique veut légaliser, alors que la vie, le monde arrive et petit à petit, on y arrive, il lance toujours cette fameuse idée de l'escalade, où si on prend du cannabis, on prendra forcément des drogues plus dures, des conneries que réfutent ceux qui connaissent la question. Le cannabis étant jugé moins dangereux que l'alcool et moins addictif que le tabac. Les lobbies de l'alcool ne sont pas étrangers à tout ça. Voilà, Macron reste dans l'intransigeance actuelle. La France est quand même le pays qui envoie le plus de gens en taule pour possession ou trafic de cannabis, alors que les prisons sont encombrées. Qu'est-ce qu'on peut encore dire dans cet article ? Il serait bien donc que les policiers passent à autre chose pour les mettre sur d'autres tâches qui seraient sans doute plus utiles. Ça ferait aussi du boulot pour les agriculteurs, notamment en zone de montagne ou dans des zones perdues comme la Creuse. C'est moi qui le rajoute ça. Ça permettrait une meilleure détection des personnes à la dérive par surconsommation, une prévention plus aisée, notamment par la suppression de l'attirance par l'interdit chez les ados, taxes pour la sécu, une meilleure qualité contrôlée, garantie par les consommateurs. Et pourquoi pas des dealers devenant chefs d'entreprise et confrontés alors aux règles de la concurrence. Et ils ne régleraient pas leur conflit à la Kalachnikov, voilà.
Bah moins en tout cas.
En tout cas, conclut-il, et donc beaucoup moins d'insécurité dans nos villes, renflouement du trou de la sécurité et prospérité dans certains départements ruraux et de montagne. Et Jupitunette tarpé.
Alors par contre, Jupitunette, j'ai pas trop compris. Jupiter, oui, mais Tunette, bon bref, c'est... J'ai pas bien capté. Alors, bien, très bien pour cet article que vous pouvez retrouver sur le blog Mediapart, le blog de Victorie Raioli. Voilà, si ça vous intéresse. Donc maintenant, un autre communiqué de presse du cirque. Toujours un peu dans le même esprit, hein. Drogue et quartier sensible, le mauvais plan Macron, la politique... Pour les villes est aussi vieille que moi, je cite, hein, déclaré M. Macron l'autre jour à l'occasion de sa récente intervention sur les quartiers sensibles, ajoutant ensuite, je cite, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'écouter ceux qui savent? Mais formidable. Le cirque prend acte de ses propos en invitant le président de la République à également reconsidérer la loi du 31 décembre 70 sur les stupéfiants de 8 ans, son aîné, et à effectivement écouter ceux qui savent et qui réclament la tenue d'un vrai débat sur la question, les professionnels de la réduction des risques liés à l'abus des drogues, mais aussi les sociologues, les économistes et les associations d'usagers ou citoyennes œuvrant pour une décriminalisation du cannabis. Mais le leader de La République En Marche semble opter, comme ses prédécesseurs, pour un énième plan de mobilisation générale contre les trafics internationaux de drogue, soufflé sans doute par son ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, auquel la mémoire semble manquer. Ne croisait-il pas, il y a quelque temps encore, des amis cannabinophiles à l'occasion de rencontres de sympathisants socialistes lyonnaises et lyonnaises ? Nous n'en dirons pas plus. Nous attendons donc avec impatience l'annonce de ces nouvelles mesures anti-drogue. S'agira-t-il de répondre aux demandes sécuritaires de certains élus appelant à la mobilisation de l'armée dans les quartiers touchés par le trafic, d'appliquer enfin la loi en incarcérant les usagers, de mettre le paquet en termes de moyens humains et financiers ? La vérité est que jamais les autorités ne pourront rivaliser avec ceux des réseaux criminels. Le budget consacré par l'État à ce phénomène ne pourra jamais atteindre celui des profits considérables que représente le trafic de stupéfiants. Une fois de plus, nos responsables politiques nous mènent dans une impasse avec au bout un mur mou dans lequel toute la société française s'enfonce doucement depuis un demi-siècle. Et pendant ce temps, s'enrichissent les mafias, produisant une économie souterraine, s'infiltrant toujours plus dans l'économie réelle, corrompant les institutions bancaires et politiques, policières aussi, car il faut que des yeux se ferment parfois pour laisser entrer les marchandises illicites. Il n'y a de procès d'intention que si l'intention est bonne. Le constat d'échec de la prohibition ne semble pas cependant émouvoir grand monde. L'absence de résultats, pire, ses conséquences désastreuses que susciterait sur d'autres sujets de vives polémiques, n'inquiète pas. Personne, ou presque, qui s'interroge actuellement sur le fait que la montée en puissance des réseaux criminels trouve ses origines dans le dispositif lui-même. Qui ose alors dénoncer ses partisans comme autant d'alliés objectifs de ces mafias ? Il ne faudra sans doute pas beaucoup de temps pour juger de l'affligeante médiocrité des mesures à venir, de l'ignorance crasse du gouvernement et de son mépris total vis-à-vis de plusieurs millions de cannabinophiles que la loi criminalise inutilement usagers récréatifs, mais aussi et surtout thérapeutiques. Les mesures les plus à même de répondre à la délicate situation des quartiers populaires sont la sortie du cannabis du tableau des stupéfiants, suivie par l'adoption d'une équation pure et simple de la filière récréative et thérapeutique en intégrant les acteurs actuels, cannabiculteurs, importateurs et revendeurs, en tout cas celles et ceux n'étant pas impliqués dans des crimes de sang. Le désordre imputé aux drogues est le fruit de l'interdiction, contrairement à ce que répandent les prohibitionnistes. Nous ne pouvons spéculer sur ce que produirait une légalisation, mais au regard de ce que nous connaissons aujourd'hui, il est certain que ça ne pourrait pas être pire. Cela relève du bon sens.
Voilà, amende forfaitaire, non merci, stop à la prohibition.
Exact. Amende, contravention, tout ça, on n'en veut pas. Ensuite, musique.
Une petite
allez,
pause musicale.
Un peu de musique, à tout de suite.
Et on écoute Smug, Song of Devotion.
I'll take the hard road. I believe I'll see you there. In a cyclone of stones, wooden spikes in your hair. Or maybe you'll be resting, leaning up against a busted fence. Pluck a bird from your coat, then we're back up on the hard road. We could sleep in a barn, bathe in a lake, steal a pie, let hunger dictate. The steps we take along the hard road. We'll borrow from the nearest washing line. And when summer comes, it's almost impossible not to have a good time.
De Radio Canu et Cannabis Circus, il reste un quart d'heure les gars.
Et ouais ouais, merci. Alors donc, qu'est-ce qu'on parle un peu de bière ?
Bah ouais.
Alors ça ne parle pas que de bière dans cet article d'ailleurs, hein. Ça parle d'autre chose.
En tout cas c'est l'Est républicain hein, qui nous parle de ça.
Alors dans l'Est de la France, il y a plein de boutiques qui ouvrent en ce moment, une à Besançon on en avait parlé, il y en a une autre à Dole qui a ouvert peu de temps après. Je crois qu'il y en a même une troisième qui a ouverte il y a pas très longtemps dans le coin là-bas aussi.
Voilà, bah, ils sont près de la Suisse.
En Franche-Comté. Vive la Franche-Comté, vive les Francs-Comtois.
Eh oui, ils sont près de la Suisse allemande. Hein. Voilà, dans l'aire urbaine, en tout cas, la bière au cannabis en plein boom. Surfant sur le succès des produits dérivés d'un cannabis dénué d'effets toxiques, de jeunes entrepreneurs ont créé leur boisson au houblon et affichent leurs ambitions au festival Boxons à Valentigney.
Valentigney, oui.
Voilà,
c'est dans le territoire de Belfort, je crois.
Donc, ou dans le goût. L'article rappelle que le cannabis, graines, filles, tiges, fleurs et feuilles et sa résine hachiche restent interdits. Mais certains principes actifs de la plante sont cependant autorisés, dont ceux au CBD. Et donc les produits à base de CBD prolifèrent sur le marché français depuis plusieurs mois. Gélules, tisanes, liquides pour cigarettes électroniques, baumes cosmétiques, et sucreries, mais aussi de la bière. Du côté du territoire de Belfort, donc de jeunes entrepreneurs, sentant le filon, ont investi voilà un an dans la culture de cannabis en Suisse, où le phénomène s'avère encore plus prégnant. Donc leur société Green Paradise cultive de l'herbe, et ils expliquent que ce qu'ils gagnent, ils le réinvestissent automatiquement, donc... voilà, ça avance, puisque voilà, il y a beaucoup de concurrence sur tous ces produits à base de CBD. Des magasins ouvrent les uns après les autres dans la région. Le prix du produit a été divisé par 5 au cours de l'année. Voilà, donc les 5 associés là, qui font de Green Paradise se sont dit qu'il fallait se diversifier. Et donc, ils se sont décidés, comme c'est des amateurs de bière, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose avec. Et puis, il y a quand même, ce n'est pas les premiers quand même, on va faire une petite aparté, à faire de la bière aux chambres, y compris de la bière bio aux chambres. Il y en a quand même déjà beaucoup qui existent sur le marché français. Donc, peut-être pas dans la région de Belfort, mais en tout cas dans d'autres régions.
Beaucoup, moi je dirais 2, non, essentiellement. Enfin, que je connais, après il y en a d'autres.
Oui, il y en a au moins 2 ou 3, oui.
Parce que là, je pense à la Natural Mystique et la Piscana.
Oui, aussi.
Mais il y a quoi d'autre?
Cannabis, je crois, ou quelque chose dans ce style.
D'accord.
Même avec Prime Vert, déjà, je crois qu'il y en a 3 marques qui sont en concurrence.
D'accord, ok.
Voilà, donc en tout cas, ces gens ont cherché un brasseur dans le secteur, mais les gens étaient frileux. Donc, ils se sont mis à faire de la cannabière. Ils sont passés de 1000 à 3000 litres mensuels en l'espace de quelques mois. Voilà, donc ils ont acquis une brasserie à Ménoncourt pour pouvoir faire 9000 litres mensuels. Donc, grâce à ça, ils font de la bière artisanale au cannabis. Donc, avec évidemment moins de 0,2% de THC. Ils assurent tout est vert et donc ils s'adaptent au marché et chaque fois qu'ils gagnent de l'argent, ils le réinvestissent. Voilà une des jeunes gens qui ont compris qu'on pouvait surfer sur ce filon vert. On va partir un peu plus loin, on va traverser l'Atlantique pour aller faire un petit tour de ce qui se passe ailleurs.
Oui, on va d'abord faire une petite halte à New York, ou plutôt une bonne nouvelle en tout cas. Le maire de New York, Bill de Blasio, a officiellement demandé à la police de la ville de ne plus arrêter les fumeurs de cannabis dans l'espace public. Alors ça, bravo. Franchement, on n'est pas fan de tout ce qui se passe au niveau politique aux États-Unis, loin de là. Surtout en ce moment, depuis un an et demi là. Mais en tout cas, voilà, au niveau des initiatives locales dans quelques États, dans quelques villes, il se passe des choses très intéressantes. Et en plus, je trouve là cette décision est intéressante puisqu'elle s'appuie quand même sur un constat, qu'on n'arrive pas à faire ressurgir en France. Ce constat, c'est quoi? C'est que finalement, on n'arrête pas d'en parler, on en parle tous les ans depuis des années, mais que la guerre à la drogue, la guerre au cannabis, les interpellations, ce sont des actes, des pratiques qui sont racistes, puisque la plupart des personnes qui sont arrêtées, en ce qui concerne les États-Unis, sont à 86% des personnes d'origine afro-américaine ou latino-américaine, alors que de multiples études ont montré qu'on consommait du cannabis dans à peu près tous les milieux sociaux et ethnico-sociaux, je sais pas comment on dit, mais que seules les personnes issues des minorités visibles se font choper par les flics. Et
alors que c'est pas forcément ce qu'ils fument de plus.
Pas du tout. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Et puis en France, c'est à peu près comme ça aussi que ça marche. Hein.
Tout à fait.
Là, dernièrement, avec le cas de, je pense à lui, hein, au cas de Hardisson, hein, qui s'est quand même fait choper avec avec du cannabis sur lui, et puis on lui a filé 50€ d'amende et tout. Je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre venant d'une banlieue française, ça se serait certainement pas passé de la même manière. Donc voilà.
Voilà, donc le maire de New York a décidé de dire à sa police d'arrêter de contrôler et d'arrêter les
arrestations au faciès.
Oui, et de, bah, de
d'arrêter d'emmerder, d'emmerder les fumeurs
de joint, voilà, dans l'espace public.
Voilà. Ils disent des choses que le cirque dit depuis des années. C'est formidable.
Oui, oui, tout à fait. Il faut quand même noter, quand même.
Notons
que ce n'est que la police
de la ville de New York. On est bien d'accord. Ça ne s'applique pas ni à l'État du New Jersey.
La NYPD, quoi.
La New York Police Department, c'est ça que tu veux dire?
C'est ça.
Ok, si tu veux. Voilà, mais comme voilà, donc tu as raison, ça ne s'applique que à la ville de New York et pas à l'État du New Jersey et pas aux États autour et pas au reste des États-Unis.
Voilà, et la police fédérale peut toujours arrêter des gens.
Voilà, le FBI en l'occurrence. Mais ce qu'a dit le maire, c'est que la loi risquait de changer dans la ville et dans l'État prochainement. Et que du coup, ben, on va libérer la police de la ville de ses tâches et ils pourront se concentrer sur d'autres activités. Voilà aussi ce qui s'est dit.
Voilà, et l'article du Parisien, puisque c'est de ce 21 mai, rappelle qu'en France, l'expérimentation nationale d'utilisation du cannabis à visée thérapeutique est en cours de réflexion, mais que la légalisation n'est pas à l'ordre du jour et que le gouvernement envisage de frapper les consommateurs au porte-monnaie. Voilà, donc avec l'idée de faire payer une amende de 300€ par les consommateurs pris en flagrant délit.
Bien, ça voilà pour les États-Unis. On va remonter un tout petit peu plus au nord, on va aller faire un petit tour au Canada avec un article de l'Expansion, l'Express, puisque maintenant les journaux d'actualité économique se penche également sur la question du développement de l'industrie du cannabis.
Ben oui, le cannabis fait planer l'économie.
Oui. Puis elle fait déjà planer l'économie dans les États qui ont légalisé aux États-Unis. Et là, alors que la loi n'est même pas encore modifiée, puisqu'il devrait légaliser dans le courant de l'été.
Voilà, tout à fait. C'était prévu pour début juillet. On sait que ça
sera juillet et septembre-octobre.
Mais voilà. Bon, voilà. En tout cas, 65 000 mètres carrés de cannabis sont déjà
dédiés à la culture du cannabis.
Sont déjà au cœur de la campagne québécoise.
Et oui, parce que alors là, c'est pas un bonheur. Par contre, il y a quand même des grosses organisations économiques et financières qui investissent. L'une d'entre elles, on en avait déjà parlé, c'est Canopy Growth, qui voilà. A investi dans la culture de 65 000 mètres carrés de cannabis. Voilà. Donc avant, ils faisaient pousser des tomates, des machins. Ils ont tout balancé. Maintenant, ils mettent du cannabis. J'espère quand même qu'ils s'intéresseront. Ils continueront à cultiver des tomates parce que manger des tomates, c'est quand même pas mal.
C'est important.
Voilà. On va pas manger que du cannabis et non plus. Hein.
Voilà. Ils disent.
Ça va pas le faire. Hein.
J'étais réticent au début, mais quand le train passe, il ne faut pas le rater. Voilà, le terme, le train en termes de rendement, c'est incomparable. Donc, poursuit Stéphane Bertrand, qui espère multiplier par deux la productivité de ses serres. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, ça pullule. Il y a beaucoup de quelques mois que Donc avec Justin Trudeau, il va y avoir dans quelques mois la légalisation totale de la marijuana. Donc agriculteurs et industriels sont dans les starting blocks. Le commerce de l'herbe pourrait se révéler très lucratif. Dans un rapport de la Banque canadienne impériale, donc la BCIC, bref, le marché potentiel pourrait atteindre 4,2 milliards d'euros au Canada. Un montant supérieur aux ventes d'alcool.
Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est pour ça qu'en France ça change pas. Ce qu'on disait tout à l'heure en off là.
Voilà, donc l'intérêt
c'est
pour
pas
le
étonnant,
Canada.
Hein.
Bah oui, surtout.
Il y a des raisons.
Surtout que le lobby alcoolier a de quoi trembler, puisqu'on a remarqué dans les quelques États qui. Donc là, on sort un petit peu de ce texte, hein, mais on a remarqué, il y a eu des études qui ont montré que dans les États qui ont légalisé le cannabis récréatif, il y avait eu une petite baisse de l'utilisation d'alcool, puisque les gens plutôt que boire de l'alcool, prenait du cannabis. Il dépensait à peu près le même argent dans ses produits. L'un légal avant et l'autre illégal, donc les deux étant légaux. Voilà, il y avait un petit transvasement d'argent de l'alcool au cannabis. Et donc forcément, l'alcool perdait un peu. Qu'est-ce qu'on apprend aussi, qu'on n'apprend pas ? On le rappelle que dans ce texte, l'intérêt pour le cannabis est tel que plusieurs universités canadiennes ont décidé de poursuivre le mouvement et des cursus ont été ouverts dès 1917 au collège communautaire.
2017.
En 2017.
Pas en 1917.
Dès 2017, oui.
Non, t'as dit 1917.
Dès 17, mais j'ai dû dire non. Ouais, non. Dès 2017, oui. Au collège communautaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick.
Brunswick, oui.
Voilà, la demande de main-d'œuvre est très importante, donc souligne la doyenne de la faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de cette université de...
Redis-le. La demande de main-d'œuvre est très importante.
Oui, la demande de main-d'œuvre
est très importante. Oui, mais peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans le... et qui sont prêts à traverser l'Atlantique. Donc ouais, s'il y a parmi nos auditeurs et auditrices, il y en a qui nous écoutent, c'est une vraie proposition.
Ah bah c'est un vrai problème
de manquer de main d'œuvre, et du coup il en faut.
Parce que c'est à peu près comme le vin, puisque c'est une activité
saisonnière. Non.
Si, beaucoup.
Bon, pas en extérieur, mais uniquement en extérieur.
Oui, mais il y a quand même beaucoup d'herbes en extérieur, en Californie, entre autres.
Oui, mais là, on est au Canada.
Oui, non, mais c'est juste une parenthèse, parce qu'on en a parlé en automne, rappelle-toi, que l'industrie viticole n'arrivait plus à trouver de gens pour
vivre. En Californie, oui.
En Californie, pour vendanger, puisque les gens préféraient aller cueillir manicurer, puisque c'était payé au moins 2 voire 3 ou 4 fois plus que la vendange. Et donc les gens n'y allaient peut-être pas forcément par amour du cannabis, mais en tout cas parce que ça rapportait plus. Donc d'où cette histoire de manœuvre très importante. Donc là on parlait de l'activité de récolte, mais en plus il faut quand même planter, donc ça on peut s'en occuper toute l'année, puis après il faut, on peut le transformer, il faut aussi le vendre, donc ça fait...
Ça peut employer énormément de gens, on est bien d'accord.
Voilà, donc bref, on en revient à ce qui se passe dans les universités canadiennes qui souhaitent accélérer la recherche dans le domaine pour développer les activités médicales de la plante. Depuis le projet de légalisation, le nombre d'utilisateurs du cannabis médical a explosé, plus 54%. Et les entreprises se battent pour intégrer un marché prometteur. 64 des 104 licences de producteurs accordées par le gouvernement canadien ont été obtenues au cours des 12 derniers mois. Donc ça a vraiment augmenté le rythme des fusions et des acquisitions donc d'entreprises. C'est accéléré entre les géants du cannabis Made in Canada, qui cherchent à s'octroyer la part du lion en augmentant leur marché de production.
Leur capacité de production.
Leur capacité de production, oui, tout à fait. Aurora avalait l'un de ses concurrents, Medilif, pour 2,1 milliards d'euros. Quand même un des plus gros deals de l'histoire dans le monde de la feuille verte. Qu'est-ce qu'on peut dire, la fortune du pot, donc
du pote.
Le marché, l'enjeu dépasse largement le marché intérieur canadien. En misant sur leur expérience et leurs outils industriels, les fers de lance du cannabis médical veulent devenir des référents mondiaux. L'effet boule de neige promis par Justin Trudeau va sans doute avoir lieu. Le cannabis médical tombe, avance. Récemment, l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, les grands dont on a parlé, Aurora ou un autre, Canopy
Gros,
se sont implantés cet hiver au Danemark, etc. Donc, si le marché européen s'ouvre un jour à l'usage récréatif, les Canadiens seront déjà là. Ils pénètrent le marché mondial par le médical.
Tiens.
Voilà. Alors, je ne sais pas si le cannabis médical est un coin pour arriver à la légalisation du cannabis, mais en tout cas, les entreprises se servent du cannabis médical pour faire du cannabis et pour être prêts le jour où ça sera légalisé. Voilà, on arrive à 21h, on va un peu...
22h.
22h, donc à la fin de l'émission, pardon. Voilà, en termes d'investissement, certains prophétisent, comme Antoine Quesnel, qu'on n'est qu'au début de l'aventure. C'est clair. Les aventures vont sans doute se poursuivre en dehors de l'autre côté de la frontière canadienne, évidemment, c'est-à-dire soit aux États-Unis, soit en Europe. Voilà. Canopy a déjà toqué à la porte de Wall Street. Tous attendent la légalisation du cannabis à l'échelle fédérale. Mais à la Maison-Blanche, Donald Trump ne semble pas pour l'instant pas disposé à ouvrir la boîte de Pandore. Et Macron non plus, d'ailleurs, je rajouterai.
Lui, il ne sait même pas où elle est, la boîte.
Voilà, voilà un petit peu de tout ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui. On va quand même rappeler l'événement qui arrive le 18 juin, qui sera le 17 juin.
Bah, l'appel du 18 juin, donc cette année, le dimanche 17 juin. Oui, parce que bon, faire ça un lundi, bon, vous en conviendrez, c'est pas forcément un super jour pour fêter ça. Donc nous, on a choisi de le faire le dimanche 17 juin, entre midi et 20h, au Parc des Berges, à Gerland. De midi donc à 20h, on en reparlera. Toutes les informations sur le son sur le site internet du Cirque Lyon, www.cirque-lyon.fr, et sur le fil d'actualité de notre page Facebook. Voilà, donc c'est la fin de Cannabis Circus ce lundi 28 mai 2018. Je vous rappelle notre numéro de téléphone si vous souhaitez nous joindre, 06 11 53 10 07. Et voilà, pour ce soir c'est tout. D'autres informations la semaine prochaine, plus d'informations sur le 18 juin, plus d'informations sur ce colloque international le 9 juin à Genève, de midi à 20h également. Voilà. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Maintenant c'est Chasseurs de son. Au revoir et merci pour votre fidélité.
Ciao, ciao, ciao à tous, et au 17 juin, réservez la date pour cette pique-nique canadique.